Salut, chers auditeurs, amateurs d'histoire de l'art, au pluriel bien sûr. Ici c'est Juliette pour Radio Bigaille et aujourd'hui une rediffusion signée Arracaille. J'ai un peu omis de vous dire que depuis le début la technique c'est Jérôme, indispensable et évident au point que j'ai oublié de le dire. Désolé, c'est mon début dans la radio. Bon, ça n'excuse rien. Allez, j'espère que vous allez bien, que vos oreilles sont prêtes, bien dressées à l'écoute et surtout bien curieuses. Nous voici de nouveau ensemble pour un moment de bonheur, oui, de bonheur et d'échappée belle. Cette semaine, en compagnie de la peintresse mal connue du grand public et pourtant majeure, Rosa Bonheur. Piquecou et Robert, encore une fois, nous emmènent à la rencontre du meilleur de l'art. Et tout ça pourquoi ? Pour le plaisir des yeux, sans doute, chers auditeurs. Celui qui fait du bien à la tête et qui nourrit le cœur. Mais aussi pour découvrir que certains, certaines de nos congénères ont produit des œuvres, des images qui nourrissent aujourd'hui encore notre imaginaire collectif sans que nous en soyons forcément conscients. Car les artistes, qu'ils soient peintres, décorateurs, écrivains, cinéastes ou auteurs de bandes dessinées ou tout ce qu'on veut, les artistes se nourrissent des œuvres de leurs aînés, s'ils en sont dignes. Et ces influences arrivent jusqu'à nous, par mille chemins, des filiations artistiques insoupçonnées, construisant des ponts entre nous et développant des racines qui nous poussent de partout et peuvent même nous aider à vivre. Voilà pourquoi donc on vous emmène au pays de Rosa, cette immense peintre animalière du 19e siècle, qui fut aussi sculptrice et reconnue en son temps. Bonne écoute avec Rosa Bonheur.
Arracaille avec Piquecou à la régie, à la programmation musicale, à la programmation musicale et à la rédaction des blabla de cette émission.
Alors moi je vais essayer de vous narrer à peu près la biographie de Rosa Bonheur. Et pour ça, je me suis appuyée donc sur le livre de Marie Borin, qui a fait une biographie qui s'appelle Rosa Bonheur, une artiste à l'aube du féminisme. Donc, je vais vous raconter brièvement sa vie avec quelques passages du livre. Puis après, on passera à l'entretien qu'on a eu avec Christelle. Puis on repartira un petit peu sur la fin de la vie de Rosa Bonheur. Donc, Rosa Bonheur est la fille de Raymond et Sophie Bonheur. Donc, son père est professeur de dessin. Il se veut socialiste et peintre d'histoire, ancré dans le réalisme et l'exactitude du dessin. Baigné d'humanisme, il part vivre chez les Saint-Simoniens. Sa mère, restée seule avec 4 enfants, s'épuise au travail, au ravitaillement, au cachet de musique le jour et à la couture la nuit. La famille vit à Bordeaux et Marie écrit dans le livre « Le dimanche, les bonheurs vont se promener dans les environs de Bordeaux. Les premiers pas de Rosalie l'emportent vers les prés où paissent les moutons, les vaches, les taureaux. Les bêtes la fascinent, leurs yeux surtout, l'expression de leur regard. Elle doit souvent s'enfuir à toutes jambes, poursuivie par des cornes jugeant indiscrète cette assiduité. Cet enfant, pourtant, consacrera sa vie à mettre en valeur la beauté de ses animaux. Elle passe de longs moments dans les étables et éprouve un vif plaisir lorsqu'une des vaches qu'on est en train de traire se met à lui lécher la tête. Avec ses voisins paysans, Rosalie aime gaminer et courir dans les champs. Une vraie petite fille saurait-elle être si libre de ses mouvements ? Son grand-père, Jean-Baptiste Dublanc de la Haye, la déclare « garçon en jupon ». Qu'à cela ne tienne, Rosalie deviendra femme en pantalon. Donc à la mort de sa mère, elle n'a que 11 ans, elle reste vivre avec son père et devient son élève. Donc Marie écrit la suite. Dans la salle de sculpture, au milieu des rapins, Rosalie copie les antiques, les peintres flamands et hollandais, où figurent des animaux sa préférence. Paulus Potter, Philippe Overmans, Nicolas van Bergheim, Karel Dujardin et l'italien Salvatore Rosa. Lorsqu'une de ses copies, le Henri IV de Pourbus, est vendue 100 francs, elle se sent riche. Une autre de ses copies, les bergers d'Arcadie de Poussin, est donnée par son père au ministre de l'Intérieur. Elle copie aussi les moissonneurs de Léopold Robert. Son grand succès, dit-elle, est le Saint-Jérôme, dans la section de sculpture achetée pour une église. Les tableaux des vieux maîtres la fascinent. Les copier, son plus grand bonheur, c'est la vraie grammaire de l'art, dit-elle. C'est aussi un gagne-pain. Rosalie commence à remplir la bourse de son père. Donc, Ensuite, Rosalie était le vrai prénom de Rosa Bonheur. Donc Rosalie est effondrée par le décès de sa mère et elle va se promettre de relever la femme, de ne pas vivre aux dépens d'un homme et de devenir riche, et elle se jura de rester aussi célibataire. Son père va lui donner Elisabeth Vigée-Lebrun comme modèle.
Une artiste très très femme, très connue de cette époque. Et oui, parce que on n'insistera jamais assez sur le fait que Rosalie a été terriblement marquée par le décès de sa maman, un décès dû justement à l'épuisement parce que le papa n'a pas pu subvenir aux besoins de la famille pendant plusieurs années, et c'est la maman qui s'est, comme le relevait Piquet-Coup tout à l'heure, qui s'est tuée au boulot en cousant la nuit jusqu'à pas d'heure et en donnant des cours de chant, je sais plus, de musique, ouais, voilà. C'est ça, et c'est ce qui décidera vraiment de la vie de Rosa Bonheur, de sa vie de femme, puisque on vous le répétera, on vous le redira, elle ne s'est jamais mariée, elle a toujours refusé de vivre comme les femmes de son époque.
Voilà, donc pour pouvoir assumer sa vie d'artiste et être à l'aise, donc elle va aussi porter le pantalon. Et là, on peut lire le passage suivant. Pour se perfectionner dans son art, Rosa Bonheur passe des journées entières à l'abattoir du Roule. Elle étudie tous les types d'animaux, au point de vue myologique, ostéologique et physiologique. Le sol, raconte-t-elle, est rouge de sang. Pour échapper aux agressions que lui valent ses jupes, Rosa Bonheur décide donc de s'habiller en homme. La loi du 16 Brumaire de l'an 9, 7 novembre 1800, stipule que toute femme désirant porter un pantalon doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Celle-ci ne peut être donnée qu'au vu d'un certificat d'un officier de santé. Loi jamais abrogée, Rosa Bonheur renouvellera toute sa vie cette permission de travestissement.
Non, vous imaginez, avant 1800, une femme pouvait se mettre en pantalon sans demander la permission à la préfecture. Mais à partir de 1800, et c'est toujours en vigueur, une femme, normalement, elle doit aller à la préfecture. Imaginez toutes les nanas aujourd'hui qui portent un pantalon en faisant la queue à la préfecture pour avoir une autorisation. Ça serait assez... Enfin bon, je ne veux pas dire rigolo, parce que ce ne serait pas rigolo du tout, mais bon, ça pourrait évidemment arriver. Pourquoi
pas. Et d'ailleurs, dans l'atelier de Deby, on voit ce permis de travestissement.
Tout à fait, ouais, dans l'atelier de Deby, oui, bien sûr.
Voilà. Donc ensuite, Rosa Bonheur va rencontrer la famille Micas et la fille de la famille Micas, Nathalie, qui partagera donc toute sa vie jusqu'à la mort de Nathalie, quoi.
C'est-à-dire une trentaine d'années de vie commune.
À 19 ans, elle présentera sa première œuvre au salon, qui va être acceptée. C'est une œuvre qui s'appelle De Lapin. Et en fait, elle va continuer à présenter des toiles tous les ans. Et en 1845, elle est médaillée. Et à 26 ans, donc un peu plus tard, elle est même médaillée d'or.
Oui, ce qui est assez exceptionnel pour un homme, mais encore plus pour une femme.
Et à ce sujet, Dajot écrit, donc le 3 juin, donc là je lis un passage du livre de Marie, le 3 juin, Dajot, dans l'illustration, salon de 1848, écrit « Rosa Bonheur est aujourd'hui une des célébrités de notre peinture. C'est elle qui approvisionne notre musée de son plus beau bétail. Nous n'avons à redouter aucune concurrence étrangère. » Il est impossible de mieux rendre la toison floconneuse, la laine imprégnée de suinte, que dans ses moutons au pâturage. À la manière des grands artistes, elle se montre aussi habile à modeler qu'à peindre.
Oui, parce qu'il faut aussi relever que c'est un sculpteur tout aussi exceptionnel qu'un peintre. Et elle abandonna la sculpture parce qu'elle avait un frère, Isidore, qui lui était sculpteur, et elle abandonna la sculpture de manière à pas faire de l'ombre à la carrière de son frère.
Voilà. Et la même année, donc, le critique Anatole de la Forge salue, entre guillemets, ce soleil levant. L'artiste a donné au monde l'épreuve de son génie, représentant la vie laborieuse des champs avec autant de poésie que de vérité, ce qui lui assure un rang très distingué parmi les paysagistes et les peintres d'animaux. Bracassa, qui régnait avec l'insouciante sécurité d'un maître, se jugea atteint par l'œuvre d'un enfant. Il redoubla de grâce pour faire oublier le succès de son étrange rival. Il était en effet assez original de voir une jeune fille de 20 ans se lancer avec une énergie sans égale dans les voies périlleuses de l'art. Elle reproduisait des animaux, des moutons et des biches, cela s'expliquait encore, mais des vaches magnifiques, des bœufs, des taureaux, grands et forts comme nature, tels qu'on en voit par troupeaux le matin, dans les plaines du Poitou, de la Normandie ou du Charolais.
Oui, une petite bonne femme d'1m52. Pour un entretien avec Christelle Leboeuf, comme je vous l'annonçais en début de cette émission, qui est détachée par la mairie de Thomery à la conservation de l'atelier musée de Rosa Bonheur au château de Bi. Et c'est la relation de cet entretien que vous allez tout de suite avoir dans les trompes de Stache, sitôt que ma voix s'éteindra sur les ondes.
Je travaille pour faire visiter surtout une maison d'artiste qui est encore de ce jour resté dans son jus. Hein. Il faut vraiment aimer l'artiste, aimer son l'art et aimer vraiment le personnage aussi, entre guillemets, hein, et le lieu.
Mmh. Le lien avec Rosa Bonheur, parce que nous, à la lecture de sa espèce de biographie, là, on a découvert que c'était une femme très engagée dans le féminisme à cette époque-là. Et est-ce que c'est un aspect du personnage qui vous touche, ou est-ce que c'est vous êtes seulement...
Je ne peux pas ne pas dire que ça ne me touche pas. Mmh. Oui, c'est une femme qui, au 19e, a su être avant-gardiste. Mmh. Déjà au niveau de son âme, mais aussi au niveau de sa vie privée elle-même. Hein. Donc c'est une femme qui va quitter un petit peu ses routes tracées, bien tracées pour les femmes du 19e, mmh, en étant simplement épouse et mère de famille. Mmh. Elle va aller au-delà. Elle va vouloir vivre la vie qu'elle a toujours voulu rêver, dire, travailler son art, son dessin, et ensuite vivre librement et être indépendante surtout. Et ça, c'est vrai que ça touche. Même de nos jours, au XXIe siècle, c'est quelque chose qui touche de nombreuses femmes, qui a toujours touché de nombreuses femmes et qui touchera encore, je l'espère, bien longtemps, de nombreuses femmes. Et ce sera une évolution permanente. Ça, on ne va pas rester, Et toutes ces femmes comme Marie Curie, comme George Sand, comme bien d'autres, hein, même Berthe Morisot, hein, dans son art, toutes ces femmes vont faire évoluer justement cette cause féministe, entre guillemets, qui, elles ne veulent pas toujours... Rosa Bonheur n'évoquait pas toujours la cause féministe. Elle ne l'a jamais évoquée elle-même.
Non, jamais.
Ça, il faut bien s'en tenir à ça. Par contre, quand elle pouvait faire avancer des choses et faire voir que la femme était capable de le faire en étant indépendante, sans dépendre d'un mari ou de la famille, du père, hein, même, parce qu'à cette époque, c'était le père qui était toujours... Là, non, elle faisait. Et ça, on peut être qu'admiratif de tout cela.
Et est-ce que vous, en vivant dans son univers depuis de nombreuses années, est-ce que vous, vous faites un... Est-ce que vous sentez... Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre cette personnalité complètement atypique, comme femme en tout cas, dans cette société assez patriarcale du 19e, et son expression, sa forme d'expression artistique, son attachement aux animaux, etc. Est-ce qu'il y a des liens ou pas enfin,
Non. Rosa Bonheur a été très marquée dès son enfance par la perte de sa mère. Hein. Elle n'avait que 11 ans lorsqu'elle a perdu Sophie Bonheur, hein, sa maman. Mmh. Ça va marquer énormément Rosa Bonheur. Elle va avoir un détachement par rapport à ça. Mais déjà bien avant, elle avait 4-5 ans, elle a commencé à faire quelques croquis et c'était principalement des animaux. Et voilà, ça a toujours été, depuis sa tendre enfance, ces animaux qui ont été son point d'ancrage.
Et son engagement artistique ne vient pas se surajouter à cet engagement.
Non. C'est comme deux choses bien indépendantes aucun lien. On aurait pu le ressentir dans certains de ces tableaux.
Oui, bien sûr. Voilà.
Alors, on peut ressentir, certains vont nous dire, dans le marché aux chevaux, qui, pour certains, est agressif.
Tout à fait.
Donc tout le monde ne perçoit pas pareil. Alors il faut voir aussi le dessin des avant-projets avant de voir le tableau en lui-même. Quand on a la chance, moi j'ai eu la chance de pouvoir voir des études de ce tableau ou autre, des dessins, c'est vrai que on voit déjà la patte de l'artiste, surtout l'œil de l'artiste qui va décrire exactement au niveau l'animal. Mais après, quand on voit l'œuvre originale, comme on a pu le voir à Bordeaux en 97 lors d'une dernière exposition de Rosa Bonheur en France, on va pouvoir voir le tableau, mais avec un autre regard. Or, comme Jéricho de la Croix, il y a beaucoup de force dans ce tableau, mais il y a aussi cette agressivité, entre guillemets, faite par une femme, parce que c'est assez dur. Hein. Donc, on peut le ressentir comme ça.
Oui, surtout dans un univers où on sortait, où on était encore quand même pas mal dans l'académisme.
On voit que l'abrage nivernais, au tout départ, qui est hyper réaliste et qui est très académique. Hein. C'est quelque chose de linéaire, c'est propre, c'est lissé. Alors que 10 ans après, enfin même pas 10 ans, 53, elle va faire le marché aux chevaux. qui a une force énorme. Et pour une femme, c'est quelque chose de très étonnant pour l'époque. Les femmes, c'est portraitiste et autres, mais pas peintre animalière, et surtout avec ce genre de tableau.
Oui, c'est ça. C'est peintre animalier, on peut dire, elle fait des chats, elle fait des...
On s'attend à ça, ouais, pour une femme au 19e, il ne faut pas s'en cacher, où les femmes portraitistes, elles sont bien. Mais une femme peintre animalière en elle-même qui fait ce genre de tableau, surtout d'une grande dimension de 5 mètres, c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu.
Non, ce qui indique quand même une femme de caractère assez exceptionnelle. Parce que...
Tout à fait. Et
c'est là que je ferai le lien avec son... Pas son engagement, mais son espèce de vie détachée des conventions.
Voilà, mais sans avoir d'engagement, proprement dit. Voilà, et donc elle ne va pas mélanger, mais elle va retranscrire sur ses dessins, sur ses toiles, ce qu'elle ressent et puis ce qu'elle a envie de faire ressentir, ce que tout le monde n'ose pas faire ou dire en tant que femme, ou exprimer, soit dans l'écriture, soit dans la peinture ou la musique. Elle va le faire au niveau de la peinture et du dessin.
Et on voit même qu'après la guerre de 1870, je crois que c'est là qu'elle peint des félins. Là, en fait,
c'est vraiment le départ, elle passe à une autre étape. C'est les animaux domestiques, entre les bovins, les chevaux, autres. Et la période des félins avec Fatma, Pierrette et tout ça, ça avait quelque chose pour elle de très très important. Durant 3 ans, elle va vraiment s'étendre. Mais alors, ça va être toujours des scènes classiques. Vous avez vu, ils sont exposés, ils posent, il n'y a pas d'agressivité. Par contre, ce sont des petites peluches, presque, qu'on pourrait voir quand on voit ces lithographies. Ils posent, ils sont sereins. Et je pense que Rosa Bonheur, à cette époque, était sereine aussi elle-même. Je pense qu'elle avait dépassé cette étape un petit peu, on va encore citer le mot agressif, mais de cette fureur qu'elle avait, peut-être, cette envie, sans être agressive. Mais bon, avec les félins, comme on peut le voir au musée, c'est une douceur. C'est une douceur qui s'exprime.
Et on a vu ce matin, on était à la Barbizon.
Avec
parce
les tigres.
On voulait venir cet après-midi ici, mais bon, on est passé donc à l'atelier Millet.
Bien sûr.
Et il y a le monsieur,
le conservateur,
nous a montré, il a acheté aux États-Unis une toute petite peinture de Rosa Bonheur, c'est une lionne.
C'est Fatma.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Et il disait, vous ne trouvez pas, qu'est-ce qu'il nous parle?
Qu'elle faisait presque humain.
C'est très bien que vous apportiez ce sujet, parce que vous avez vu le portrait du lion qui est dans l'atelier au musée.
Sultan.
À chaque fois que je le présente, moi, pour moi, c'est un portrait. C'est pas un animal, c'est un portrait, c'est un personnage. Et il fait partie de la vie de Rosa Bonheur, il fait partie de la maison, c'est un personnage. Je dis toujours que c'est un portrait, c'est pas simplement un lion, ni quoi que ce soit, c'est un portrait.
Tout à fait. Et d'ailleurs, dans la biographie là,
de Marie,
elle insiste dans les correspondances, etc. Elle insiste sur ce côté de Rosa Bonheur qui présente toujours ces animaux, non pas comme des animaux, comme on pouvait le faire.
Non, mais comme des gens de compagnie à Rosa Bonheur.
Voilà,
ce sont des gens de compagnie, ils font partie de sa famille. Ils ne sont pas part entière de la famille, de la vie journalière de Rosa Bonheur. C'est pas des animaux de passage.
Oui, parce qu'elle explique comment ils viennent manger à sa table.
Le nombre de kilos de viande qu'il leur faut, c'est 20 francs, je crois, par jour qu'il faut. C'est énorme à cette époque. On a du mal, mais quand nous, on est tellement habitués de lire ses courriers ou ses mémoires que, justement, en ce moment, je
travaille. Et vous continuez encore ce travail de...
Voilà. Je travaille. On prépare les journées du patrimoine. C'est le patrimoine caché qui a lieu cette année, au mois de septembre. Donc, on va faire un son et lumière, et dedans sera toujours mis Rosa Bonheur. Et là, on va évoquer des courriers entre Anna et Rosa, et vice-versa, et voir s'il y a des pensées. Il y a des pensées qui sont... Je vais vous lire une pensée. Les lois de la nature chez les animaux ou êtres inférieurs sont choses involontaires et impersonnelles. Chez l'homme, à mesure qu'il se développe, c'est le contraire.
Ah je crois que c'est dans le bouquin
de Marie. Elle l'a repris.
C'est très important parce que c'est Dominique qui m'a fait découvrir toutes ces choses. Parce que moi, j'ai une formation artistique, mais dans les écoles d'art, on en Rosa Bonheur, on connaissait dans l'art moderne.
Vous n'êtes pas le premier qui m'en parlait, malheureusement. Vous n'êtes pas le premier que je reçois, qui me dit mais moi je ne connaissais pas, ou quand j'ai étudié, ou machin.
C'est invraisemblable parce que c'est quand même.
Parce que la peinture animalière en France, notamment en Europe, mais plus particulièrement en France, en Italie ou autre, je vais exclure l'Angleterre, qui eux sont très friands de cette peinture animalière, c'est pas un domaine qui a été vraiment exploité. Hein. On ne va pas s'intéresser à hein, des chiens, les chevaux. Mais c'est tout sans plus. On ne va jamais s'intéresser vraiment à ça. C'est pour ça que dans les écoles, on n'en parle pas. On va étudier toutes les techniques, on va étudier certaines périodes qui ont bien marqué. Hein. Je ne veux pas être contre les professeurs d'histoire de l'art, mais on va s'intéresser à des grandes, grandes périodes, notamment italiennes ou autres, hollandaises et tout ça. Et après, on va laisser de côté le patrimoine que l'on a quand même, qui existe.
Bien sûr.
Mais qui est méconnu.
Qui est méconnu.
Parce que ce sont des artistes qui n'ont pas percé, ou alors, comme Rosa Bonheur, qu'on a enterré un peu vite. Mmh.
Qui était, d'après la biographie de Marie, qui était, enfin, son aura, etc., sa gloire, était comparable à celle de Picasso.
À celle de Picasso,
c'est invraisemblable.
Mais tout à fait.
Et puis.
Mais tout à fait, quand on reprend les livres de vente de l'époque de Rosa Bonheur, de son vivant chez Drouot, un tableau de salon de 60 cm se vendait à peu près 3000 francs. C'était énorme. Et Monet, Monet, 100 francs. Donc quand on a cette comparaison, là, on peut se poser des questions quand même.
Tout à fait. Donc c'est la première partie de l'entretien avec Christelle Leboeuf, vous voyez, et je voudrais ajouter quand même, parce que c'est remarquable, que c'est une autodidacte, en tout cas en histoire de l'art, elle n'a pas de formation artistique, elle s'est faite toute seule par 16 ans de fréquentation et de travail, de recherche sur la vie de Rosa Bonheur, et elle en parle avec une espèce de liberté, une espèce de facilité qui est assez extraordinaire.
Une passion.
Et, ah oui, oui. J'ai oublié évidemment le principal comme d'habitude, c'est-à-dire la passion qu'elle y met.
Quand vous croisez des moutons groupés en peloton grimpant sur un piton, quand vous croisez des moutons qui vont casser la croûte, que les moutons soient bretons, qu'ils soient de Charenton, à Paul ou à Gaston, ils sont moutons, gloutons, dit-on, tonton, tontaine, tonton. Pensez-vous, oui, pense-t-on, en voyant ces moutons avancer à tâtons, oui, tous ces moutons piétons avancer sur la route. Comment le papa mouton parmi tant de moutons reconnaît son fiston? Ça c'est coton, comme dit Riton, tonton, tontaine, tonton. Les voyez-vous les moutons, messieurs, mesdames? Qui sait pourquoi côtoie-t-on tant de moutons? Même pour un papa mouton, le plus beau du canton, qui aurait du piston, rien ne résout, le sait-on, cette angoisse sans problème. Car dans tout ce peloton, à chacun nous comptons quatre pattes, un menton. Pour un mouton, c'est de bon ton, tonton, tontaine, tonton. Et pour les enfants moutons, les petits rejetons, les pauvres chatons, hélas, nous nous répétons, le problème est le même. Car trouver papa mouton n'est pas murmure-t-on, piquer des hannetons. Tant de moutons sont leurs tontons, tonton, tontaine, tonton. À compter tant de moutons, de ville en pleine, parfois ne nous prendrait-on pour des moutons, pour des tonton, tontaine. Mais revenons sans bâton à nos moutons. Quand vous croisez des moutons groupés en peloton grimpant sur un piton, quand vous croisez des moutons groupés en peloton grimpant sur un piton,
c'était Pierre Louqui, les moutons.
Christelle Leboeuf, conservatrice, on peut dire,
On peut lui accorder ce titre de l'atelier de musée consacré, l'atelier musée n'est pas consacré, de Rosa Bonheur à Abby.
Rosa Bonheur a eu aussi l'intelligence de partir de Paris. Elle avait son atelier Rodassas, elle a préféré déménager, s'isoler un petit peu quand elle a vu le tumulte un petit peu de la vie parisienne, et tous ces salons et tous ces noms, ces personnes qui se montraient un petit peu, tout ça. Elle a eu l'intelligence. Parce que je pense qu'elle serait restée sur place, je ne sais pas si ça aurait fonctionné de la même façon. Heureusement qu'elle avait M. Grandbart, son agent, qui développait et qui a su. Elle a eu cette intelligence, cette carte, cette demi-mondaine qui ne correspondait pas du tout.
Oui, elle disait qu'elle avait trop de visites, même qu'elle commençait
à c'est pour ça qu'elle refusait, et c'est pour ça qu'elle a décidé de partir, pas trop loin de Paris, bien sûr. Elle ne fallait pas qu'elle se coupe de cette vie parisienne qui pouvait toujours l'aider dans des salons, et garder un peu de communication avec certaines personnes, comme Pierre Jumel, Auguste Ken ou autres. Et elle a continué, mais en se coupant de toutes ces expositions. Et elle a très bien fait.
Ah oui.
Elle a très bien fait. Je ne sais pas comment ça aurait évolué. On ne peut pas dire. Mais c'est vrai que c'était pour toutes ces personnes qui se montraient trop dans les salons ou autres. Ils n'ont pas pris peut-être au sérieux comme on aurait dû les percevoir comme ils étaient. On met souvent des images à certaines personnes. On colle des images à certaines personnes qui sont fausses parce qu'elles font partie de tel ou tel cercle.
Tout à fait.
Et ça, elle a su se démarquer de tout
bien
ça.
Bien sûr. Mais je pense que c'était même inévitable avec son caractère.
Oui.
Et voilà.
C'était vraiment en contradiction avec ce qu'on a l'habitude de voir à cette époque, au 19e. Une femme, elle marchait derrière l'homme, elle devait suivre. En gros, c'est ça. Mais là, elle ne pouvait pas se le permettre. Elle ne pouvait pas se le permettre, vu son caractère. C'était une femme très dominatrice, très caractérielle, qui allait de l'avant. Il ne fallait pas lui donner de limite. Elle n'aurait jamais accepté. Et c'était quand elle avait décrété d'aller aux abattoirs de Paris. C'était comme ça.
Non, elle avait juste son permis de travestissement.
Voilà, tout à fait. Et comme elle le dit, personne ne me dérangeait parce que j'étais en pantalon. J'aurais été en jupe, je me serais fait aborder et jeter dehors comme une malpropre. C'est que la vérité, on a eu cette chance.
Mais ça, c'est. Et je pense que les gens qui vont écouter notre émission, à qui on va parler de Rosa Bonheur, ne peuvent pas imaginer. Enfin, c'est très difficile de transposer.
Ce que c'est. Quand on lit ou quand on écoute une émission, on va un petit peu imaginer, on va s'y mettre pas tout à fait là, mais on va dire Mais quand on est sur le lieu, comme là, au musée, qu'on en parle, qu'on prend son temps, qu'on discute. Au 19e, les femmes, regardez, elles n'avaient pas le droit de divorcer avant 1880. Elles avaient le droit jusqu'en 1820-24 à peu près. Et ensuite, elles n'avaient plus le droit. La femme au 19e est en recul. Même sur certains. Il y a des choses que. Donc quand on parle de tout ça, quand on met en avant. La vie de la femme, et puis qu'on explique le pourquoi du comment, on se rend mieux compte et on approfondit vraiment ce que l'on sait.
Mais le livre de Marie, il est important pour ça.
Il est très percutant à
comprendre tout ça, parce que la première fois quand nous avons visité l'atelier, en fait, on n'a pas senti les choses aussi fortement.
Parce qu'on n'a pas, on n'est pas rentré dans les détails non plus. Parce que c'est vrai qu'avec Marie, nous, on a passé des heures. J'ai une autre amie au Musée de France, pareil, on passe des heures avec des groupes et on explique. Alors, les visites font 2 ou 3 heures des fois avec ces personnes-là.
On est reparti de la visite avec l'envie d'aller plus loin, ça fait plaisir.
C'est là pour ça, parce que nous on le fait vivre, parce qu'on y est, on veut faire savoir. C'est pas simplement un musée, c'est toute une vie d'une femme. C'est une vie d'une femme qui est passée par des vertes et des pas mûres, comme on dit familièrement. Mais c'est toute une vie. C'est très dur ça à surmonter, et elle a su affronter ça. Et ça, c'est vrai que Marie l'exploite très bien. Alors, exploiter, c'est pas le mot juste, mais elle le décrit très bien. Et elle le fait ressentir. Et là, on se dit, oui, ça devait pas être rose tous les jours, quand même. Ça devait pas être rose tous les jours.
Non.
Rien que de pour vendre un dessin ou un tableau, ou de participer à un concours. Rendez compte, les beaux-arts étaient interdits aux femmes. Il a fallu avoir du cran quand même. Là, quand on rentre vraiment en profondeur dans le début de la vie de Rosa Bonheur, avec la rencontre de Goya, avec les Saint-Simoniens, avec tout ce qui suit autour, il y a la biographie qui est sortie chez Pygmalion, là il y a eu un rétrécissement parce qu'ils lui ont demandé de ne pas en faire autant.
Mais en même temps, alors c'est pas sauter vraiment du coq à l'âne, mais c'est quand même important de l'évoquer, c'est que, bon, à Orsay, par exemple, il y a une œuvre d'elle, la Bourgeoisie générale était magnifique, mais c'est une œuvre. Et dans la librairie de... Bon, là, on a vu la biographie de Marie, mais il n'y a aucune carte postale, rien.
Alors, on était étonnés. Là, justement, vous voyez, c'est pour ça qu'au musée de Chamerol, quand la commissaire d'exposition, Sylvie Busson, m'a proposé de mettre Rosa Bonheur en avant, elle est venue faire un premier choix. C'était des huiles qu'on a l'habitude de voir. OK. Mais moi, j'ai proposé pourquoi pas des dessins, pourquoi pas des études, pourquoi pas des photos.
Surtout les études auxquelles Rosa Bonheur tenait par-dessus.
Voilà. Et pourquoi toujours proposer des huiles qu'on a l'habitude de voir dans les expositions? Et elle a suivi. Donc c'est très bien, parce que l'étude de Lyon, les Indiens, les bisons, c'est parti. C'est parti à l'exposition. Bon, bien sûr, il y a les juments Margot, on ne peut pas, il y a des choses qui sont quand même des pièces maîtresses de certaines expositions que les gens veulent voir. Surtout que là, les juments, on l'a vraiment en visu, on la voit vraiment de près, donc c'est quelque chose qu'on ne voit jamais en temps ordinaire. Mais c'était l'occasion de faire voir aux personnes les études et les projets, tout ce qui va avant de voir une œuvre achevée.
Absolument.
Et ça, les gens connaissent mal.
Oui, tout à fait. On a vu ça au musée Gustave Moreau à Paris.
Bien sûr.
Il y a des foules de dessins.
Ah, c'est énorme.
Oui, ouais.
C'est énorme.
Et même des études, des ébauches en peinture, etc., voilà. Des projets que je trouve extraordinaires. Parce que c'est d'une... On peut, pour le coup, c'est extrêmement contemporain. Quoi, il y a.
Voilà.
Alors, il y a l'œuvre, il y a les études, c'est qui sont très enlevées, très... Voilà, c'est... Et puis souvent, l'œuvre finale est beaucoup plus sage et beaucoup plus...
C'est plus lissé, c'est propre, c'est vraiment entre parenthèses, on va pas... Parce que dans les dessins, l'artiste s'exprime vraiment. Et puis après, en réalisant l'œuvre, il y a des modifications qui apparaissent.
Pour John Constable.
Pour beaucoup d'artistes, ils sont obligés de façonner autrement l'œuvre. Ils se sont fait plaisir avec le dessin des études, et c'est pour ça que Rosa Bonheur ne vendait jamais ses études.
Oui, c'est ça, et elle insiste bien là-dessus. Oui.
Elle ne vendait jamais ses études. Jamais. Mm-hmm. Donc c'est, et ça, pareil, le public, le grand public ne sait pas tout ça.
Le tableau, La Foulaison, il a été terminé ou pas?
La Foulaison du blé, il est à Bordeaux.
Il est à Bordeaux.
Il est à Bordeaux, il fait 6 mètres 10.
Oui, c'est ça.
Oui,
c'est son dernier tableau.
Voilà, c'est le dernier tableau que, juste avant de mourir. Elle avait mis 15 ans pour le faire, ce tableau. Donc, c'est vrai que la mort de Nathalie l'a beaucoup touchée. C'était vraiment un grand vide pour elle. Et avec Anna, ils ont fini les fonds du tableau. Parce que c'est vrai qu'à 77 ans, c'était très compliqué pour elle.
Donc, ils les ont finis.
Voilà. Le tableau est achevé, il est au musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
D'accord. Parce que moi, il m'avait semblé à la lecture de la biographie de Marie, là.
Alors, voilà, parce que le tableau, il a été fini. Hein. C'est les fonds qui ont été finis par Anna. Et voilà. Mais Rosa Bonheur n'avait pas la force de finir certains petits détails.
Okay. Voilà.
Et au musée, vous avez le tableau inachevé.
Oui. Mmh. Voilà.
C'est un petit chef-d'œuvre.
Ah oui, oui. Parce que j'ai bien examiné,
j'ai
fait quelques photos, j'ai demandé l'autorisation pour faire quelques photos des détails.
Des détails.
Parce que alors ça va de presque de l'ébauche jusqu'à la finition de certains.
Pour le blanc, le cheval blanc, quand vous promenez. Moi, chaque fois, quand je fais de la visite, moi, je travaille sur les chevaux blancs. Et bon, toujours l'équilibre par les tons qu'on va retrouver essentiellement sur les œuvres de Rosa Bonheur, brun et blanc. Et on le voit très bien, c'est très bien démarqué. Et les chevaux blancs, on voit très bien l'évolution de sa technique pour donner vraiment. C'est spectaculaire. Même quand on voit cette technique de pose de peinture, quand on voit entre les bleus, les rosés, les brillances qui apparaissent, le travail des mélanges, il y a au moins 5 couches là de posées successives pour donner ces effets. Si je me trompe, approximativement 5 couches. Hein. Et on n'est pas à la moitié.
Ouais.
On n'est pas à la moitié.
Et puis je regardais aussi
le
détail,
c'est ça,
le dessin, c'est avec des ocres là.
Ah, et on a les petites ombres et voilà les effets musculaires qui se déplient tout doucement. Donc là, on n'est qu'à même pas la moitié de la composition du tableau. Il n'y a que quelques chevaux qui sont affrétés. Et les gens ont du mal. Quand on voit ce genre de tableau, on peut dire aux gens, regardez, ça c'est simplement un quart du travail. Il reste 3 fois à faire ça et ils sont tout le tableau. Et au fur et à mesure, elle va rajouter, elle va remettre, mais avec un lissage très précis, avec quelque chose qui ne fait pas surcharge et qui donne vraiment, ce rendu. Et c'est vrai, quand on voit un travail inachevé comme ça, bah, le public se rend mieux compte.
Bien sûr.
Parce que quand on voit un tableau achevé, bon, maintenant, on a beaucoup de matériaux, on peut voir avec les lumières, on peut voir très bien les retouches, les choses comme ça, hein, bah, j'en passe. Mais quand on voit un tableau comme ça, on se dit, bah oui, ça se fait pas en claquant des doigts.
Non.
Il y a un sens de l'observation, il y a... Après, il faut voir suivant comment on veut le positionner, avec la lumière du soleil, si on fait les ondes de tel ou tel sens, il ne faut pas se tromper.
J'étais un peu complètement stupéfait de l'économie de moyens mis en œuvre, parce que elle a des toutes petites palettes, et là...
Alors, oui, là, vous avez pas tout.
Non, hein,
il y a même les pinceaux, là, on en a prêté un chamrol aussi, mais ils estompent les pinceaux, les brosses, il n'y a pas tout, il y en a en pointe, il y en a des plates, il y a tout ça. Tout n'est pas exposé au public. Hein.
Non, mais quand même, c'est pas...
Mais c'est... Bon, bah, c'est un petit bout de femme, 1m50, hein, donc c'est pareil, elle n'allait pas prendre des choses qui allaient l'encombrer, qu'elle allait déséquilibrer quand elle peignait. Et puis, généralement, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait ces petites tables devant le tableau inachevé qu'on a prêté. Tout était à sa portée de main, vous avez vu, les meubles sont sous roulettes, tout se déplace, tout est fait pour que l'artiste travaille dans les meilleures conditions. Là aussi, c'est du top. C'est du top. Elle s'est donné les moyens aussi d'évoluer dans un monde... qui était fait pour un artiste.
Oui, tout était pour l'aider à créer...
pleinement son souci d'organisation. C'était son sanctuaire, de toute façon. L'atelier, c'est, elle le disait, c'est le sanctuaire de Rosa Bonheur. Ouais, elle pouvait recevoir ses amis, Pierre Julemaine ou M. Gambard ou autre, ou Anna ou Nathalie, pouvait venir boire un café dans l'atelier, mais quand elle avait décrété qu'elle voulait être seule, isolée, elle fermait la porte de son atelier, personne ne la dérangeait, et elle se mettait dans son univers à elle. Mais c'est une artiste, avant tout.
Non, mais c'est assez étonnant. Mais c'est aussi une toute petite fille qui, spontanément...
va se mettre à dessiner comme ça, sans qu'on lui dise, tiens, dessine. Bah, non, c'est d'elle-même, c'est venu d'elle-même de dessiner des animaux, des vaches dans les champs près de Bordeaux. C'est venu d'elle-même.
Voilà. Et toute petite.
Toute petite, donc on ne l'a pas forcée, on ne lui a pas dit, tiens, non, c'est d'elle-même, donc c'est...
Et après,
c'est inné, les gens qui font ça, c'est quelque chose d'inné. Voilà. De toute façon, il y a toute la famille, hein, parce que Isidore, c'est pareil, au niveau de la sculpture, je suis désolée, hein, il faut aller voir Isidore Bonheur, hein, les sculptures d'Isidore, tout le monde, c'est vrai qu'on... Tant mieux pour nous aussi à Tomry, tant mieux pour nous les propriétaires, Rosa, tout le monde commence à connaître. Mais c'est vrai que quand vous voyez les sculptures d'Isidore Bonheur, hein, il y en a à Paris, hein, notamment au Palais de Justice, les Lions. Vous avez aussi au Château Fontainebleau, il y a une très belle sculpture d'Isidore. Bah, c'est un détail fabuleux. Mmh. Pareil, il y a un site, allez voir les sculptures d'Isidore. Il y a encore plus d'émotions. Je ne sais pas. Déjà, Rosa Bonheur, quand on voit ses petits moutons, l'autre, on voit l'ossature, on voit bien le creux, c'est pas lisse, c'est pas droit. C'est l'animal en lui-même, hein, comme elle représentait ses vaches sur ses tableaux. Ben là, c'est pareil. Et Isidore, je trouve qu'il y a une émotion encore plus perspective. Voilà.
Et si vous deviez...
Ne me demandez pas de choisir un tableau.
Non, non, mais si vous aviez à dire en une phrase, à décrire Rosa Bonheur ou à dire votre amour pour son travail ou quelque chose comme ça, est-ce que vous pouvez...
Non, c'est qu'une intelligence. Une intelligence de voir les choses différemment et d'avoir su et d'avoir eu la possibilité de pouvoir le faire connaître. C'est tout. Parce qu'elle avait une autre vision. On peut pas dire qu'une phrase sur Rosa Bonheur.
Non.
Mais elle a eu cette chance inouïe de pouvoir s'exprimer ce qu'elle ressentait surtout. Voilà.
Une chance inouïe et un courage inoué aussi parce que
pour l'époque bien sûr.
Ouais, c'est ça,
pour l'époque bien sûr. On en revient toujours à ça. On en revient toujours à ça parce qu'il faut pas oublier que c'était dans un monde qui était où la femme était interdite approximativement de tout, hein, sans être vraiment.
À Racaille, vous venez d'entendre donc, un entretien avec Christelle Leboeuf, la conservatrice du musée atelier Rosa Bonheur à Bi.
Tu les prends par le col, tu les prends par le cou. Ils ont confiance en toi, ils ont confiance en nous, les chevaux. ces pays de brume où dorment les maisons, ils s'en vont sous la pluie, chargés de goémons. Les chevaux, comme l'homme attaché, comme l'homme promis, on les voit trébucher sous le poids de la vie. Entre ces vignes bleues, quand se ferment les portes, quand s'allument les feux, les chevaux. Compagnons de labour et de morne saison, ils sont là dans la cour à l'heure des moissons, les chevaux. Ils traversent la vie derrière, heureux qu'on leur ait mis en naissant des œillères, les chevaux. Parfois la guerre les prend comme sur les tableaux, ils tombent lourdement les deux pattes dans l'eau, les chevaux. Sans avoir eu le temps de comprendre, à genoux, ils se font toreros le dimanche à Cordoue. Les chevaux, ils sont de tous les temps, de toutes les histoires, comme nous, cependant, comme nous, sans mémoire. C'est bientôt la fin, qu'ils sont moins frémissants, qu'ils trottent déjà moins, les chevaux. Un matin de printemps, un matin de courage, ivre de lilas blanc, tu les mènes au village, les chevaux. Et même dans la cour, de tablier, tandis que tu parcours l'ombre de tes souliers, les chevaux. Ils baissent un peu la tête, ils penchent un peu le cou, ils ont confiance en toi, ils ont confiance en nous, les chevaux.
C'était Jacqueline Dulac, Les Chevaux.
Bonne femme.
Voilà, donc on était arrêté à la médaille d'or de Rosa Bonheur. Donc ensuite, en 1848, ce sera la première commande de l'État, donc ce fameux labourage nivernais qu'on peut voir au musée d'Orsay. Et après suivra un deuxième triomphe qui s'appelle le marché aux chevaux. Et justement, à ce propos, donc là, c'est sorti du livre de Marie. Au salon de 1853, Rosa Bonheur expose son marché aux chevaux. Un chef-d'œuvre. Le tableau obtient un succès fou. Outre sa beauté, il étonne, fascine, parce qu'il est l'œuvre d'une femme. Peindre des percherons avec une telle vigueur, un tel talent, un tel génie, cette femme est un homme, dit-on. Elle attire sur elle une attention considérable. Léon Orsin-Déon, dans son rapport sur le salon de 1853, écrit « Grande peinture ». Rosa Bonheur est un peintre original. Elle n'a pris des maîtres anciens que le procédé. C'est en étudiant la nature qu'elle a acquis ce dessin énergique et pur, cette couleur blonde, argentine et vraie, que nous admirons dans son beau marché aux chevaux, joyau du salon. C'est qu'en effet, des qualités d'un caractère élevé s'y font remarquer. Sa composition a du mouvement, du tumulte sans confusion, du pittoresque sans affectation. Sa couleur est puissante et brillante. Elle a tiré un excellent parti de la poussière et des brouillards du matin pour produire des effets de lumière piquants. Mais elle l'a fait avec tant d'art et de goût qu'il semble qu'elle ait copié scrupuleusement la nature. Donc après ce marché aux chevaux, malheureusement, cette toile ne va pas trouver d'acquéreur à Bordeaux, qui est sa ville natale. Et c'est Ernest Gambard, un excellent marchand d'art à Londres, qui va l'acquérir et qui va par la même occasion devenir son ami et marchand d'art. Donc Rosa et sa compagne Nathalie voyagent en Écosse, en Angleterre, et Ernest Gambard vend des toiles jusqu'en Amérique. Et en 1860, Rosa Bonheur s'installe au château de Bie, donc à Thomery, et la forêt de Fontainebleau devient sa source d'inspiration. Donc, d'après le toujours extrait du livre de Marie, « En hiver, écrit Rosa Bonheur, la forêt de Fontainebleau est belle à la perfection, avec ses longues avenues de neige verge, mis à part les petits sabots des cerfs, ses groupes de cerfs broutants, leur façon gracieuse de bondir au loin quand ils vous aperçoivent, les beaux couchers de soleil doré à travers des arbres sans feuilles, le vent mordant, balayant le tout. » Donc voilà, avec la forêt, le parc du château de Bie devient le véritable atelier de Rosa Bonheur. Donc c'est là qu'elle va travailler longtemps, et c'est là qu'elle hébergera aussi et peindre des félins. Donc on a parlé tout à l'heure, on évoquait les toiles, on évoquait Sultan et Fatma, donc extrait du livre de Marie. En juin 1885, un couple de lions du jardin zoologique de Marseille cherche acquéreur. Ernest Gambard les envoie à Bie. Donc Fatma, donc la lionne, est caressante comme un chat, plus affectueuse que Pierrette, mais pas aussi apprivoisée ni aussi intelligente, mais plus intelligente qu'un chien. Elle suit Rosa Bonheur partout, comme un caniche. Quand Rosa la caresse, la lionne met ses deux pattes autour de son cou, échange de bisous. Sultan le mâle, est réputé méchant et dangereux. Rosa Bonheur parvient à l'apprivoiser, à le caresser. Lorsqu'elle le flatte, il fait le beau tout comme un chat. Le matin, lorsqu'on ouvre les volets de sa cage, placée sur la pelouse, Sultan guette l'arrivée de sa peintre. Lorsqu'elle s'installe sur l'estrade couverte qu'elle a fait construire devant la cage, il semble prendre un malin plaisir à changer de position, ce qui oblige l'artiste à recommencer ses études un nombre infini de fois. Donc Rosa Bonheur donc travaille à Bie, et elle, dans la deuxième note un peu plus tard dans sa vie, elle va même offrir une école au village de Bie qui en était dépourvu, et ce sera une révolution car ce sera une école mixte, donc filles et garçons ne seront plus séparés.
C'est le vœu de Rosa.
Voilà. Et malheureusement, elle va perdre son amie Nathalie Mika. Ce sera un drame profond parce qu'elles ont partagé de grands moments. Nathalie l'aidait pour tout, toutes les tâches de la maison, lui permettait de travailler en toute quiétude. Et quelques années après, Rosa Bonheur rencontre Anna Klumpt, une Américaine, et avec qui elle va vivre de 2 ans, parce que malheureusement elle la rencontre tard, et elle va demander à Anna de rédiger également de rédiger sa biographie, et Anna l'avait sollicité auparavant pour faire son portrait. Donc voilà, son dernier tableau sera la foulaison qu'on évoquait tout à l'heure dans l'entretien, la foulaison du blé en Camargue,
qui se trouve donc au musée de Bordeaux. Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.
Voilà. Donc après, Rosa Bonheur va s'éteindre en 1899 et Anna Klumpt sera sa légataire universelle.
Bien. Qui va valoir à cette pauvre Anna beaucoup de soucis avec la famille de Rosa Bonheur.
Voilà,
et pas que la famille d'ailleurs, mais tous les gens intéressés, tous les charognards intéressés par sa succession.
Donc ça paraît difficile en fait de faire une sélection de textes dans cette biographie parce qu'elle est dense, elle est passionnante et en fait, tous les aspects de la vie de Rosa Bonheur sont importants, aussi bien sa passion dès l'enfance pour les animaux que son talent pour les dessiner et les peindre, sa rencontre avec Nathalie Mikas, sa vie au château de Bie, à l'écart du monde, ses voyages nombreux, son acharnement au travail, sa rencontre par la suite avec Anna Klumpt, qui va partager la fin de sa vie, faire son portrait, rédiger ses mémoires. Donc voilà, j'espère qu'on vous a un petit peu donné envie d'aller plus loin, de lire le livre, d'aller jusqu'à son atelier.
Oui. Oui, c'est la rencontre d'une femme, on ne le répétera jamais assez, assez exceptionnelle, qui, à une époque où le mec était le maître de toutes les décisions, etc., etc., elle a su, elle, prendre position complètement le contre-pied de tout ça et de s'affirmer comme une femme libre avant tout. Voilà, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire à cette époque, et c'est curieux d'ailleurs qu'on en parle assez peu dans les exemples qu'on peut avoir de protagonistes ou de ces gens ou de ces femmes qui se sont battues pour justement avoir toutes les libertés qu'elles ont maintenant.
Est-ce qu'on dit rapidement où on peut voir des toiles de
Bien
de
sûr,
Rosa
oui,
Bonheur,
tout à fait.
Donc au musée d'Orsay, donc le labourage nivernais, là en bas, dans la collection Chambard, je crois.
Chauchard.
Au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, donc la foulaison du blé en Camargue. Il y a une œuvre au musée de Chantilly, une au musée des Beaux-Arts de Lille. Et puis dans l'atelier de Millet à Barbizon, on a pu voir, nous, un petit bronze.
Un petit bronze de Rosa Bonheur aussi, en plus de la petite du portrait de la Lionne.
Voilà, ouais. Et à l'auberge de Gannes aussi, je crois qu'il y a une...
Oui, qu'il y a, oui, à l'auberge de Gannes.
You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. I'd never stay.
Et voilà, ainsi se termine cette émission consacrée à Rosa Bonheur. Merci à Piquecou et à Robert pour ce beau voyage en images. J'espère que cela vous a plu. Et si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à en faire profiter vos amis. Je vous rappelle que vous pouvez toujours, et ce jusqu'au prochain bug informatique planétaire, accéder aux œuvres de cet artiste depuis chez vous, grâce à la technologie moderne qui permet de voir des images à distance depuis un ordinateur. Alors ensuite, vous rappelez que cette rubrique est destinée à diffuser toutes les infos concernant les arts visuels, dans le secteur en gros de la Charente-Maritime, mais même au-delà, les frontières sont souples bien sûr. Si vous avez des infos à faire passer, envoyez-nous un message à radio@labigaille.org. radio@labigaille.org. Vous pouvez aussi nous envoyer des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Alors, si vous avez des infos, vous nous les envoyez au moins une semaine à l'avance, et le plus tôt possible, c'est le mieux, et nous le diffuserons ici. Voilà. En attendant, je ne peux que vous inviter à pousser les portes des musées et divers expos près de chez vous. Il y a aussi des galeries. N'hésitez pas à y entrer, poussez les portes et rincez-vous les yeux. Je sais qu'il existe à Saintes un atelier galerie récemment ouvert par le peintre Jean-Luc Valéjas et sa compagne, peintre également. Je ne connais pas encore le lieu, mais j'ai vu la peinture du monsieur et c'est un très très beau travail, je puis vous le dire. J'espère bientôt vous en dire plus à l'occasion d'une petite visite à l'artiste. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à tout vite pour de nouvelles aventures. On se quitte sur « Il faut vivre » de Mouloudji, interprété par Mélisse Mel. Je vous fais des grosses bises. Tout de bon. À bientôt.
Malgré l'écran, c'est une éance. C'est pour mieux nous manger, enfants. Et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous crise, malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut partir, qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres prix en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage. Faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelle endormies, dans un bruit d'usine gémit le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit. Faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'il nous dise au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde en œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache ratée, faut vivre.
Faut vivre.